Bonsoir. Alors, le dernier rapport du GIEC alerte, de nouveau, sur le réchauffement climatique et surtout le non-respect de l'accord de Paris sur le climat qui indiquait 1,5 degré d'augmentation des températures, 2 degrés maximum pour éviter une plus grande catastrophe. Le ministre de la Transition écologique a prévenu récemment que la France serait plutôt autour de 4 degrés. Alors certes, Macron nous a dit que personne ne pouvait le prévoir, donc il n'était sans doute pas à Paris en 2015. On semble découvrir l'importance des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais mon invité insiste aussi, surtout, sur l'importance des arbres dans la lutte contre la pollution atmosphérique. Le département des Alpes-Maritimes est un des départements les plus pollués de France. Si on regarde régulièrement AtmoSud, que je fais, on constate que l'air est très rarement bon, il est pratiquement toujours au mieux moyen et beaucoup plus souvent encore dégradé. La qualité de l'air a un très fort impact sur la santé. Dans les Alpes-Maritimes, on évalue à 500 décès prématurés qui seraient dus à la mauvaise qualité de l'air. Certes, la préfecture a élaboré un plan de protection de l'atmosphère, mais pour moi, celui-ci n'est pas à la hauteur des enjeux. Il est important, urgent, de faire quelque chose. Mon invité, donc je vais le laisser se présenter, mais il est chercheur et il travaille plus spécialement sur la forêt, les arbres et la qualité de l'air, donc il expliquera ça bien mieux que moi. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Pierre Sicard, je suis docteur en sciences, spécialisé en chimie de l'atmosphère. Je suis chercheur à Argence à Sophia Antipolis. Je travaille sur les impacts de la pollution de l'air et du changement climatique sur les écosystèmes forestiers et sur le rôle de l'arbre en ville pour améliorer la qualité de l'air. Je suis coordinateur du groupe de recherche à l'IUFRO, qui est l'Organisation internationale des organismes de recherche sur les études forestières. Coordinateur du groupe de recherche pollution de l'air et changement climatique, et je suis expert au sein des Nations Unies à l'UNES pour l'air sain en ville.
Voilà, donc on va aborder donc le problème de la pollution de l'air. Alors, vous dites que la pollution de l'air et le changement climatique sont liés, et vous abordez plus spécialement dans le sud-est de la France.
Oui, alors les villes en général et les villes particulièrement du sud-est de la France, dans le quart sud-est, sont confrontées aux conséquences du réchauffement climatique, telles que la pollution de l'air et le phénomène des îlots de chaleur urbains, qui deviennent deux problèmes majeurs affectant la qualité de vie et le bien-être des citoyens. Alors, les tendances révèlent un climat plus chaud et plus sec le long du littoral et un peu plus humide, un peu plus pluvieux à l'intérieur des terres, dans l'arrière-pays. Au cours des 50 dernières années, une accélération de l'augmentation des températures de l'air est observée. On observe une augmentation de 0,38 degrés par décennie depuis 1972 et une augmentation de l'ordre de 0,60 degrés depuis 2012. Alors à Nice, particulièrement à Nice, parce que je travaille sur les stations de mesure à l'aéroport de Nice, on a une augmentation de la température moyenne attendu d'ici 2050 de l'ordre de 1 à 2 degrés Celsius et de l'ordre de 3 à 5 degrés Celsius d'ici 2100. Alors, à savoir qu'en 2100, le climat de Nice ressemblera à celui de Naples pour le scénario du GIEC le plus optimiste et à celui de Bizerte qui est au nord de la Tunisie pour le scénario le plus pessimiste. À Nice encore, les 7 des 10 années les plus chaudes enregistrées se sont produites au cours des 10 dernières années. Alors, un îlot de chaleur urbain, c'est la différence de température entre le cœur de ville et la zone périurbaine et rurale avoisinante. On observe des différences de l'ordre de 3 à 5 degrés entre le cœur de ville et la zone périurbaine. Et ces effets du changement climatique contribuent à dégrader la qualité de l'air. Alors, à nos jours, l'ozone troposphérique, les particules fines et les particules telles que les PM10, un peu plus grossières, et le dioxyde d'azote sont les polluants atmosphériques les plus préoccupants et les plus nocifs pour l'homme en termes de concentration, c'est-à-dire les niveaux observés dans l'air ambiant et l'impact sur la santé.
Alors, justement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient d'adopter de nouvelles normes pour la qualité de l'air et recommande donc de respecter ces nouveaux seuils. Donc, vous avez commencé à aborder effectivement les différents polluants. Donc, est-ce que ces nouvelles normes, on va arriver à les respecter, disons déjà. Et vous parlez de bon et de mauvais ozone. Donc, dans les normes, il y a l'ozone.
Alors, les impacts de la pollution de l'air et donc du changement climatique sur la santé, sont basés sur les études de l'OMS, à savoir qu'à Nice, 161 décès prématurés et 256 hospitalisations pour causes cardiovasculaires et respiratoires sont attribués aux polluants majeurs tels que l'ozone, les particules fines et le dioxyde d'azote en 2019. Les nouvelles normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sont basées sur de nouvelles études épidémiologiques qui ont montré qu'en fait, il n'y avait pas de seuil minimal à partir duquel on observait des symptômes. Donc, à tout niveau polluant, tels que les particules fines, on a des effets sur la santé. C'est pour ça que l'OMS a demandé à abaisser ces critères. Beaucoup plus restrictifs, beaucoup plus difficiles à atteindre. Le seul critère qui n'a pas bougé, c'est pour l'ozone.
Et l'ozone, son impact est moindre ou...
Alors, l'ozone, c'est un oxydant, donc l'impact est important, surtout pour les crises d'asthme et sur la végétation. Sur la végétation, l'ozone est le polluant le plus préoccupant pour la biodiversité et pour la végétation, telle que les arbres, parce qu'on a une nécrose des feuilles, une perte des aiguilles ou des feuilles qui peuvent entraîner la mort du végétal. Quand je parle du bon et du mauvais ozone, c'est que souvent, il y a une confusion. Au début, dans les années 90, on disait qu'il y a une diminution de l'ozone, un trou dans la couche d'ozone, et c'est mauvais. Et maintenant, en été, on dit que l'ozone est fort, il y en a beaucoup en été, et c'est mauvais. Donc, il y a une confusion. Dans la stratosphère, c'est dans les hautes couches de l'atmosphère, l'ozone joue un rôle d'écran protecteur vis-à-vis des ultraviolets. C'est ce qu'on appelle le bon ozone, qu'on trouve à 20 km d'altitude. C'est ce qui forme la couche d'ozone. Alors que dans les basses couches de l'atmosphère dans laquelle nous vivons, dans la troposphère, on a l'ozone qui est un polluant qui est formé à partir de polluants primaires émis par le trafic routier, par les industries, mais aussi par la végétation. Ces composés se combinent dans l'atmosphère et sous l'effet du rayonnement solaire engendrent la formation d'ozone. C'est ce qu'on appelle le mauvais ozone, qui est un oxydant et qui a des effets néfastes sur la végétation, la biodiversité et la santé. À savoir aussi, c'est que l'ozone troposphérique est le troisième gaz à effet de serre, donc qui engendre un réchauffement du climat.
Oui, c'est un effet boule de neige, quoi. Il y en a un qui entraîne l'autre.
C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Vous avez une augmentation de la température, vous avez une augmentation de l'ozone, et du fait de l'augmentation de l'ozone, vous avez une augmentation de la température. C'est pour ça que je souligne l'importance de traiter le volet qualité de l'air et non pas l'augmentation de la température uniquement.
D'accord, mais l'ozone que l'on constate donc à notre niveau, disons, c'est essentiellement quoi? La circulation automobile?
Principalement, c'est les oxydes d'azote qui sont émis principalement par le trafic routier, mais aussi les composés organiques volatiles qui sont émis par la végétation et par les activités anthropiques, par l'homme. Mais 90% de ces composés organiques volatiles sont émis de façon naturelle, parmi lesquels 99% sont émis par la végétation.
D'accord. Alors, vous dites qu'il y a des arbres urbains et le périurbain. Alors, c'est vrai qu'en ville, c'est compliqué d'avoir des arbres, quoi. En fait, on n'y a qu'à voir Antibes, il y a les jardins, il n'y a pas d'arbres, quoi. On appelle ça un jardin méditerranéen, il n'y a pas d'arbres. Et par contre, en périurbain, là, il y a des arbres, mais qui sont, j'allais dire, en danger, quoi, parce qu'on a tendance à... l'urbanisation se déplace. Donc, comment concilier l'arbre urbain, l'arbre périurbain, qui permettrait donc d'abaisser la couche d'ozone?
Alors, c'est abaisser les concentrations en ozone, parce qu'il est important de souligner qu'en fait, la chimie de l'ozone est très, très complexe. Depuis le début des années 90, vous avez eu les directives européennes qui ont demandé à ce que les véhicules aient abaissé les émissions d'oxyde d'azote principalement, parce que émis par les véhicules. Et l'ozone se forme en fonction du rapport entre les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Et ces stratégies de réduction ont eu un effet bénéfique en zone rurale, où l'on observe une diminution des concentrations en ozone dans l'air ambiant, mais ça a eu l'effet inverse en ville, où l'on observe une augmentation de la concentration en ozone. Ça, c'est qu'on connaissait peu la chimie de l'ozone jusqu'à maintenant. Maintenant, on le sait. Et un des moyens d'abaisser les niveaux d'ozone, qui est le polluant qui augmente de façon significative en ville, alors que les particules fines ont tendance à baisser significativement, ainsi que les dioxydes d'azote, du fait de la réduction du trafic et la mise en place des pots catalytiques au début des années 90, on a une augmentation des concentrations en ozone dans l'air ambiant. Le seul moyen, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut continuer à abaisser les oxydes d'azote du trafic automobile, mais en parallèle, abaisser drastiquement les composés organiques volatiles. 90% sont d'origine naturelle, 99% d'origine végétale, émis par la végétation. Le seul levier pour abaisser les concentrations en ozone en ville, c'est une sélection appropriée des essences. On travaille sur la forêt périurbaine. Je reviendrai peut-être un peu plus tard là-dessus, mais c'est l'importance de la forêt périurbaine du fait de la difficulté de planter en ville des arbres. Alors, il faut planter des arbres en ville, mais il y a quand même un rôle très important de l'impact de la forêt périurbaine sur la qualité de l'air en ville.
En ville, ça diminue parce qu'on fait des zones piétonnes, on diminue quand même considérablement la place de la voiture, donc on arrive à diminuer un petit peu grâce à ça, mais bon, pas par la végétation.
Alors, on baisse jusqu'à maintenant, on a abaissé les émissions d'oxyde d'azote du fait de la réduction de la vitesse en ville, du fait de nouvelles technologies, la mise en place de pots catalytiques, des nouvelles technologies avec la mise en place de voitures hybrides, la voiture électrique, qui ont permis de baisser drastiquement ces oxydes d'azote. Mais maintenant, si l'on veut abaisser, que l'on connaît mieux la chimie de l'ozone, il faut abaisser drastiquement les émissions de COV, les composés organiques volatiles.
Alors, on annonce souvent, les villes annoncent, bon, moi je prends l'exemple d'Antibes, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais toutes les villes annoncent le nombre d'arbres plantés. On ne parle pas des arbres qui ont été supprimés pour faire des routes ou des choses, ou de l'urbanisation. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas tout un travail à faire avec des arbres à protéger, disons, des essences à protéger tout au moins? Parce que là, quand on regarde sur Antibes, toujours le travail qui a été fait, on est arrivé à 40 arbres à protéger, qui sont un peu les arbres patrimoniaux, j'allais dire. Mais il y aurait tout un travail à faire sur le choix, donc sur la végétation, qu'on protège ou pas, par rapport à l'existant. Déjà, après, on plantera, mais déjà, au moins protéger ce qui existe.
Alors oui, il est très important de connaître le patrimoine arboré existant, pour faire justement cette estimation de l'impact du patrimoine arboré d'une ville sur la qualité de l'air. Parce que toutes les essences n'émettent pas les mêmes composés, n'ont pas le même impact sur la qualité de l'air. Est-ce qu'il y a des essences qui sont recommandées, d'autres moins recommandées d'un point de vue qualité de l'air? Alors, pour la protection des arbres, il y a une initiative qui a été menée en 2017 à Aix-en-Provence, c'est la mise en place de la charte de l'arbre. Ça a été mis en place à Nice aussi, une charte de l'arbre, avec un volet protection, justement, sur la protection des essences remarquables, des arbres remarquables, ce que l'on appelle. Et je pense que c'est une très bonne initiative, justement, pour protéger les arbres.
Ça veut dire que les documents d'urbanisme intègrent cette charte de l'arbre, parce que sinon, on donne des permis de construire qui enlèvent des arbres qu'il faudrait conserver.
Maintenant, dans les PLUI, donc les plans locaux d'urbanisme, intercommunaux aussi, les PLUI, on a un volet environnement. Et après, on peut intégrer des sections sur la protection de la végétation, les zones détectées, définir les zones que l'on pourrait reboiser avec des essences appropriées et mettre des recommandations à destination des politiques.
Et quand on a le plan climat, air, énergie territoriale, là-dedans aussi, il doit y avoir un volet végétation et arbres.
Oui, alors maintenant, on a le volet R. C'est
tout nouveau.
On a rajouté le volet R, qui n'était pas existant auparavant. Et c'est très important. Alors là, pour le volet, le PCAET, le plan climat, air, énergie, territoire, j'ai contacté justement les responsables pour rajouter ce volet végétation.
D'accord.
L'importance de la végétation sur la qualité de l'air.
Parce que la CASA, par exemple, travaille en ce moment sur son plan climat, air, énergie territoriale, et donc ce volet air et qualité de l'air n'avait pas du tout été pris en compte précédemment.
Voilà, C'est très important, j'ai contacté, j'espère que je serai recontacté, intégré mes recherches. C'est que, parce que jusqu'à maintenant, le message est difficilement compréhensible par le public et par les politiques, c'est que tous les arbres sont bons pour l'homme, ils apportent beaucoup de bénéfices environnementaux, j'en parlerai, et socio-économiques, mais tous les arbres ne sont pas bons pour la qualité de l'air. Et c'est cette partie-là qui commence à être compris et qui commence à être intégrée justement dans les discussions avec les politiques.
Accord à côté.
Vous avez un petit peu abordé, on voudrait bien développer, les bénéfices environnementaux et socio-économiques de l'arbre. Vous avez commencé à en parler, il faudrait le développer là maintenant quand même pour nos auditeurs.
Oui. Les arbres urbains sont les éléments les plus importants de l'écosystème urbain et contribuent à fournir des bénéfices sociaux et environnementaux, ce que l'on appelle dans notre jargon les services écosystémiques, tels que la réduction de la pollution de l'air, la régulation de la température de l'air, l'atténuation des îlots de chaleur, mais aussi l'amélioration de la biodiversité, séquestration des gaz, du carbone et des gaz à effet de serre, mais aussi la régulation du ruissellement des eaux pluviales, la réduction du bruit, et aussi des avantages récréatifs en mettant en place des parcs où les gens se regroupent, où les gens se côtoient, et des avantages sociaux et psychologiques. Tout ça, en fait, apporte un bien-être, améliore le bien-être des citoyens.
Et donc, mais ces parcs, créer ça en ville, c'est très compliqué, quoi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits où on puisse faire ces forêts, ces arbres urbains. On va planter un arbre le long d'une route, on va transplanter, et ça, ce n'est pas suffisant.
Alors, il est très important, justement, de planter. Tous les arbres en ville sont bons. Vous plantez un arbre dans un pot, c'est très bien. Vous plantez des arbres d'alignement, c'est très bien. Alors après, pour maximiser, la densité est importante des arbres, donc la mise en place de parcs urbains. Vous avez une nouvelle, alors ce n'est pas une directive, c'est une recommandation de la Commission européenne, c'est la règle 3-30-300. C'est voir au moins 3 arbres de chez soi, avoir une couverture végétale de la ville d'au moins 30% et avoir accès à un espace vert à moins de 300 mètres de chez soi. Tout ça, ça a été mis en place suite au Covid qui a montré l'importance justement de l'espace vert sur le bien-être des citoyens, sur les zones pour aller promener, pour sortir son animal de compagnie. Voilà. Et c'est très important, l'arbre en ville, mais aussi la forêt périurbaine, justement, comme je disais, où en ville, il est très difficile de planter, à savoir que 80 à 90% de la superficie d'une ville, en moyenne, c'est du privé, copropriété particulier. Dans ces 10-20% publics, vous enlevez tout ce qui est infrastructure, vous enlevez tout ce qui est route, trottoir, la marge de manœuvre pour planter est très limitée. Donc, c'est pour ça que la forêt périurbaine autour des villes densément peuplées est très importante.
Mais quand on regarde, je suppose toujours Antibes, que je connais le mieux, le vieil Antibes, on a l'impression que c'est urbanisé, mais chaque maison, disons, a un jardin intérieur. Si on fait une photo, on regarde avec Google, je ne sais pas quoi, là, on voit bien qu'il y avait des jardins. Donc on avait déjà cette préoccupation au moment où les villes étaient construites, composées.
Oui. Et c'est là où il y a le rôle très important du citoyen, c'est que 80 à 90% donc du patrimoine arboré est privé. Donc le citoyen, les copropriétés ont un rôle majeur dans les plans de revégétalisation des villes. Il faut communiquer auprès des citoyens pour leur apporter l'information, savoir quoi planter chez soi, et parce que ça, c'est la majorité, la grande majorité. Alors maintenant, on arrive à définir par des traitements d'images satellites à très fine résolution, entre 30 et 50 cm de résolution, avec ma collègue Fatimatou Koulibaly, qui travaille avec moi, qui est ingénieure, on a mis en place un algorithme qui arrive à détecter les arbres individuellement et on arrive à classifier ces arbres en fonction de leur essence. Donc, on sait qu'à Antibes, il y a par exemple 3000 tilleuls ou platanes d'Orient dans la ville, privés et publics. Et c'est très important parce que si l'on prend en compte que le patrimoine arboré public géré par la municipalité, vous faites une très grosse sous-estimation de son impact sur la qualité de l'air. Vous faites, grosso modo, vous n'avez que 15% du patrimoine arboré total, du nombre total d'arbres. Via ce traitement d'image satellite, on arrive à connaître exactement le nombre d'arbres privés et publics. Et en parallèle, on peut calculer et estimer, quantifier l'impact de ce patrimoine arboré public et privé sur la qualité de l'air pour mettre en place des plans de revégétalisation beaucoup plus efficaces et beaucoup plus appropriés.
Et quand on parle de l'atlas de la biodiversité, ça en fait partie ?
Là ?
L'atlas de la biodiversité, ça en fait... Par exemple, Antibes encore travaille actuellement sur son atlas de la biodiversité. On est très en retard, moi, Sartou l'a fait il y a très longtemps, en fait. Est-ce que ça en fait partie ?
Ça en fait partie. Avoir vraiment cet inventaire des arbres publics et privés, c'est très important. Mais l'inventaire en nombre, mais aussi la localisation et des paramètres, des caractéristiques telles que l'essence, la hauteur, le diamètre de l'arbre, c'est très important pour après, d'un point de vue bilan carbone, faire des estimations plus réalistes.
Voilà, alors nous nous retrouvons après un peu de musique. Alors bonsoir, nous nous retrouvons pour un alter regard avec Pierre Sicard pour parler d'arbres et de pollution atmosphérique. Donc vous coordonnez un projet européen Air Fresh. Donc cette question de la pollution de l'air concerne l'ensemble des pays européens. Il y a une préoccupation au niveau européen sur cette question de la pollution de l'air.
Oui, une préoccupation donc assez récente. Donc à se rappeler que durant l'été 2019, on a subi deux vagues de chaleur en juin et juillet 2019 et une succession de pics de pollution. À l'automne 2019, en novembre, j'ai tiré la sonnette d'alarme lors de la rencontre entre experts de l'UNES, dont je fais partie, à Bratislava. J'ai tiré la sonnette d'alarme parce que, à l'approche des municipales qui étaient initialement prévues en mars 2020, avant la crise Covid, je voyais passer tous les programmes des candidats et il y avait une surenchère sur la plantation d'arbres. C'était, entre guillemets, au plus offrant, avec par exemple 3 millions d'arbres à planter à Milan, 1 million dans la région PACA. Et donc j'ai tiré la sonnette d'alarme parce que en 2019, on a mis en évidence une augmentation du nombre de crises d'asthme en périphérie de Madrid, qu'on a lié à une augmentation des concentrations en ozone du fait d'une mauvaise stratégie de plantation où on a planté beaucoup de pins, des pins qui émettent des composés qui engendrent la formation d'ozone. Et on a eu une augmentation de ces concentrations en ozone dans l'air ambiant qui a engendré une augmentation du nombre de crises d'asthme. Donc, j'ai tiré la sonnette d'alarme et à partir de là, il y a eu la crise Covid qui a montré l'importance des espaces verts en ville sur le bien-être des citoyens. La Commission européenne a validé mon projet. Donc, dans ce projet, qui a débuté en septembre 2020, nous avons deux villes pionnières en Europe, Aix-en-Provence et Florence en Italie. Dans ce projet, on étudie l'impact du reboisement périurbain et du reboisement urbain en augmentant la densité des arbres dans les villes et le reboisement périurbain à proximité des villes densément peuplées où il n'est pas facile de planter des arbres pour améliorer la qualité de l'air et respecter les normes en matière de qualité de l'air. Pour réduire efficacement les niveaux de polluants atmosphériques en ville, les municipalités et les urbanismes ont besoin d'une sélection appropriée d'espèces d'arbres et d'une évaluation concrète et réaliste de l'impact de son patrimoine arboré sur la qualité de l'air. Donc dans ce projet Air Fresh que je coordonne, pour la première fois, on va mesurer et quantifier la capacité des arbres à éliminer les polluants atmosphériques en procédant au reboisement de deux zones test en périphérie de Florence et d'Aix-en-Provence. Donc à Aix-en-Provence, on a planté 408 arbres sur 1,2 hectare à Aix-les-Milles. Deuxième objectif, c'est d'estimer et de quantifier les bénéfices environnementaux et socio-économiques procurés par les arbres en ville. Donc les bénéfices environnementaux, c'est l'abaissement de la pollution de l'air, l'abaissement de la température de l'air, mais aussi une amélioration de la biodiversité des sols. Tout ça en faisant des mesures avant plantation et après plantation. Et l'impact socio-économique, c'est en fait quand vous abaissez la pollution de l'air, vous améliorez la qualité de l'air, vous avez un impact sur la mortalité et sur les admissions hospitalières. Vous avez moins de décès prématurés et moins d'admissions hospitalières pour crise d'asthme, par exemple. Et tout ça, ça a un coût. Et on arrive à le quantifier. Et à la fin, on va proposer des recommandations pour les politiques de plantation, par exemple le nombre et les espèces d'arbres appropriées à planter, pour un air plus sain en ville, et afin d'alimenter les politiques urbaines de planification durable. Donc, la première année, nous avons étudié plus de 400 essences, dont les principales essences, pour quantifier leur impact sur la pollution de l'air. On a sorti une liste, j'expliquerai l'impact sur la qualité de l'air, de l'arbre sur la qualité de l'air ultérieurement, mais on a sorti une liste d'espèces appropriées pour améliorer la qualité de l'air. On a planté en janvier 2022 ces 408 arbres, des arbres adultes, et on est positionné au centre de chaque bosquet des mâts sur lesquels on a positionné des capteurs au-dessus de la canopée de la couronne des arbres et en dessous. Et avec des capteurs à très haute résolution, on arrive à définir la différence entre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous pour valider les modèles d'amélioration et d'élimination de la pollution de l'air.
Alors, si on part sur le bénéfice pour les habitants, disons, le souci, moi, ce que je dénonce tout le temps, c'est quand on fait comme ça, des choses extérieures, donc du périurbain urbain, du coup, les gens prennent la voiture pour y aller. Donc, on est là sur un effet nul ou pire, non? Parce que c'est ça aussi. Il faut pouvoir que ces espaces, même périurbains, soient d'accès facile. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait être à 300 mètres d'un jardin, mais d'arbres, quoi. Oui. C'est ça, ça me paraît important. Alors, à préserver aussi.
Oui. Là on étudie la forêt périurbaine dans des cas où on ne peut pas planter en ville. Après, avoir des espaces verts à moins de 300 mètres de chaque habitation, c'est
un peu compliqué.
Oui. C'est des préconisations. Toutes les municipalités ne pourront pas répondre à ces requêtes, surtout dans le sud de la France, où on a des cœurs de ville densément peuplés, très étroits, du fait d'une architecture pour avoir des espaces de fraîcheur l'été.
Encore à côté sur...
Vous avez un petit peu commencé à en parler, mais comment l'arbre impacte la qualité de l'air? Et par rapport, on a parlé beaucoup de l'ozone, mais il y a d'autres polluants aussi. Est-ce que leur pouvoir sur les autres polluants aussi?
Alors, dans le cadre du projet Air Fraîche que je coordonne, c'est ce qu'on quantifie. Alors, vous avez deux catégories de polluants. Vous avez les polluants particulaires, tels que les particules fines, les PM2.5, ce qu'on appelle, ou les PM10. Ce sont les aérosols, les poussières, les grains de sable, tout ça, ce sont des polluants particulaires. Donc, pour ces polluants-là, on arrive à estimer, à quantifier la quantité qui se dépose sur les troncs, sur les branches, mais aussi sur les feuilles. C'est la capacité d'élimination des polluants particulières. Et après, vous avez les polluants gazeux, tels que le CO2, le dioxyde de carbone, l'ozone, qui est un gaz particulier, et le dioxyde d'azote. Et pour ces polluants gazeux, il y a une partie qui se dépose sur les troncs, les branches, les feuilles, qu'on arrive à quantifier, mais vous avez aussi une partie qui est absorbée par le végétal. Sur la surface des feuilles ou des aiguilles, vous avez des stomates. Ce qu'on appelle des stomates, ce sont des pores, des trous à la surface des feuilles, comme vous avez les pores sur la peau, et vous avez des échanges gazeux. Les polluants gazeux rentrent dans la feuille par ces pores. Et en fait, on arrive à estimer ce qui rentre dans le végétal, donc ce que le végétal, l'arbre, absorbe comme polluant gazeux. Donc cette dynamique-là, des stomates, c'est dépendant de la température de l'air, de l'humidité du sol, de l'humidité relative de l'air, et on arrive à définir. Donc au final, pour chaque arbre essence, j'arrive à quantifier ce que le végétal absorbe, élimine comme polluant. Et en parallèle, vous avez ces arbres qui émettent des composés organiques volatiles, je disais tout à l'heure. Alors les composés organiques volatiles, les COV, c'est avant, on en entendait parler parce qu'il y avait les peintures avec COV et ça donnait une odeur. Maintenant, on fait des peintures sans COV. C'est les mêmes composés. C'est de l'isoprène, des monoterpènes. Et en fait, les végétaux, tels que l'eucalyptus, par exemple, ou certains résineux, émettent ces composés. Et ces composés organiques volatiles se combinent à d'autres polluants dans l'atmosphère et, sous l'effet du rayonnement solaire, forment de l'ozone. Et donc, pour chaque essence d'arbre, j'arrive à définir ce que le végétal élimine, mais aussi ce qu'il engendre comme formation de polluants. Et à la fin, je fais le bilan, et vous avez des essences qui éliminent plus que ce qu'ils forment, et des essences qui forment plus de polluants que ce qu'ils éliminent. Et ces essences ne sont pas recommandées pour les stratégies de plantation.
Quand on parle de la forêt amazonienne qui est en danger, tout ça, c'est ce différentiel-là qui joue?
Alors, pour la forêt amazonienne, alors il y a ce différentiel-là.
Il y a une autre échelle, mais c'est
voilà, bien. C'est beaucoup plus complexe parce que vous avez des études qui montrent que dans la forêt amazonienne, vous avez des arbres qui meurent, donc vous avez de la formation de méthane, de gaz à effet de serre. Donc, le bilan est très compliqué à mettre en place. Mais après, voilà, on pourrait faire une étude sur justement l'impact de la forêt amazonienne sur la qualité de l'air. non pas que sur le CO2, parce que forêt amazonienne, on coupe ça qu'au CO2 jusqu'à maintenant.
Et des arbres jeunes ou des arbres adultes, on a des différences là aussi?
Alors, un arbre, sa capacité d'élimination optimale, c'est à 30 ans. Alors, pour la pollution, parce que la captation de polluants est proportionnelle à la taille. Plus vous avez des grandes feuilles, plus vous avez de feuilles, vous avez un impact plus important, plus il absorbe. Mais à l'inverse, pour le dioxyde de carbone, il est plus judicieux de planter des jeunes arbres qui grossissent et donc qui captent plus de carbone et qui emmagasinent plus de carbone. Donc, il est important aussi de planter des jeunes arbres.
Donc, il faut un mix des deux. Alors, sur les essences, celles qui sont bonnes pour la qualité de l'air, donc il est important de bien choisir, et puis de mixer ces différentes essences aussi, alors.
Alors oui, il est important donc de sélectionner des essences qui ont une capacité d'élimination importante, mais qui émettent peu ou pas de composés organiques volatiles. C'est là où c'est très important, une sélection appropriée des essences. À titre d'exemple, l'eucalyptus, par exemple, engendre la formation de 400 grammes d'ozone par jour, un eucalyptus adulte. Le chêne vert engendre la formation de 48 grammes d'ozone par jour. À l'inverse, vous avez des essences beaucoup plus efficaces qui éliminent plus que ce qu'ils forment comme polluants, telles que les érables, ce sont de très bonnes essences, les tilleuls, mais aussi, par exemple, le cèdre du Liban est très bon pour la captation des particules, parce que vous avez tout un système d'aiguilles, tout enchevêtré, qui maximise la captation des particules. Pour les essences à planter, je travaille beaucoup justement depuis peu avec une équipe à Valencia, en Espagne, sur les essences subtropicales.
Oui.
Alors pourquoi ? C'est dans un contexte de changement climatique et face à la hausse des températures, principalement en été, il faut sélectionner des essences résistantes aux sécheresses et de plus en plus longues et de plus en plus nombreuses, mais aussi à la chaleur et au fort rayonnement solaire. Et en parallèle, des essences adaptées aux ravageurs, aux maladies. Donc en fait, maintenant, je travaille sur ces essences végétales subtropicales que nous retrouvons dans les rues et dans les parcs de Valencia, qui sont adaptées à l'augmentation de la température, mais qui sont aussi, en parallèle, très bonnes pour la qualité de l'air, pour améliorer la qualité de l'air. Et donc, vous avez, par exemple, le parasol chinois, le février d'Amérique doré, le lilas d'été et l'orme résistant, Sapporo. Ce sont des essences subtropicales qui sont très bonnes pour la qualité de l'air et qui sont adaptées à l'augmentation des températures.
Donc l'on pourrait retrouver, c'est-à-dire que ceux qu'on plante maintenant, il faudrait déjà planter ces essences-là.
Il faut prendre en compte justement les projections climatiques qui montrent qu'on va avoir une augmentation de 3 à 5 degrés d'ici 2100, mais aussi entre 1 et 2 degrés d'ici 2050. L'âge optimal pour un arbre, c'est 30 ans. Dans 30 ans, nous y serons. Donc, il faut dès maintenant adapter ces stratégies de plantation aux projections futures du climat.
Alors, il faut donc, vous dites, combiner changement climatique et pollution dans l'air. Et vous dites que c'est la stratégie la plus efficace, nécessaire, presque indispensable. C'est vrai que nous, depuis, on a pris conscience du réchauffement climatique et surtout des problématiques d'eau, on a tendance plutôt à privilégier seulement les essences qui consomment moins d'eau.
Oui, alors voilà, c'est très important.
Il y a tout un travail à faire, il me semble, auprès des élus, auprès des citoyens.
Oui, alors c'est très important. Alors, sur la plantation des arbres peu consommatrices en eau, je tiens à souligner que les trois premières années, il faudra toujours arroser. Il y a des municipalités, une municipalité que j'ai en tête, que je ne citerai pas, qui n'est pas dans ce département, mais dans les Bouches-du-Rhône, qui a planté des essences peu consommatrices en eau. Et en fait, sans arroser, mais au bout de 3 ans, en fait, tous les arbres sont morts. Même si vous plantez des arbres peu consommatrices en eau, les trois premières années, il faut arroser. Il faut quand même irriguer pour que le système racinaire se mette en place. Alors voilà, il est très important donc de combiner. Les stratégies de plantation seront efficaces uniquement si vous prenez en compte le changement climatique, l'augmentation de la température de l'air, l'augmentation du rayonnement solaire, mais aussi le volet qualité de l'air. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue. Planter un arbre, c'est agir sur les deux leviers à la fois, car l'arbre donc rafraîchit le climat à l'échelle locale lors de fortes chaleurs en abaissant la température de l'air, mais aussi réduit la pollution de l'air et les gaz à effet de serre.
D'accord. Alors nous nous retrouvons après un petit peu de musique.
Quando la sera scivolò su di noi all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via con un tamburo di latte e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Parte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelò, io ti amo. Che contammo di baci mai dati, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. E quando l'incanto parla ancora di te, da inquadro nada da ciò che non c'è, sorridendo penso ancora di te, che ti amo. Tanto lontana non so se sarai, tanto vicino ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà, io ti amo.
Alors, nous nous retrouvons donc pour un alter regard sur l'arbre et la pollution de l'air. Et donc, on a parlé de plantations privées ou publiques. Donc, le privé, on verra après. Mais là, sur le public, le rôle des municipalités, elles se vantent toutes de planter des arbres. Ils ont découvert planter un arbre par naissance. Bon, moi, je rigole parce que j'avais ça dans mon programme en 2008. Bon. Mais ils combinent pas, on n'entend pas parler du choix de l'essence. Donc ça nous renvoie au projet Air Fresh qui privilégie, lui, des plantations, si j'ai bien compris, des plantations plutôt groupées et avec des essences qui sont à la fois bon, économes en eau, mais aussi et surtout bonnes pour la pollution atmosphérique.
Oui. Donc, la sélection des espèces végétales est vraiment spécifique à chaque ville. Même au sein de chacune des villes, vous n'allez pas planter les mêmes essences selon si vous êtes sur un terrain humide, sur un terrain sec, calcaire. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en compte pour faire une stratégie bien pensée. Mais, parce que toutes les essences doivent être adaptées aux conditions environnementales locales. Il y a un principe, c'est qu'il faut planter le bon arbre au bon endroit. Donc les objectifs des plans de reverdissement convergent vers 30% de couverture végétale. Donc on a dit tout à l'heure que ça allait être pour certaines municipalités, difficile. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut partir de l'existant, le patrimoine arboré existant. Vous connaissez votre patrimoine arboré public et privé. Vous pouvez quantifier son impact sur la qualité de l'air. Et à partir de là, vous pouvez voir comment l'adapter pour améliorer encore la qualité de l'air, voire inverser, si vous avez un patrimoine arboré qui a tendance à engendrer la formation de polluants, ben vous allez, non pas couper des arbres, mais vous allez planter des essences plus appropriées ou qui vont contrebalancer, qui vont compenser ce que votre patrimoine arboré engendre. Par exemple, aux abords de Grasse, on a beaucoup de résineux, mais aussi beaucoup de chêne vert. Le chêne vert, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une essence qui est recommandée pour la qualité de l'air. Ben, au lieu de replanter des chênes verts, vous allez planter, par exemple, des tilleuls ou des essences qui vont compenser cette augmentation de polluants.
Et pourtant, dans nos régions, le chêne vert, il est protégé.
Alors, il est protégé, mais... Voilà.
Il n'est pas bon.
Alors, il est bon pour beaucoup d'autres choses. Mais d'un point de vue qualité de l'air et d'un point de vue ozone, il émet ses composés organiques qui engendrent la formation d'ozone. Donc, à faire des stratégies de plantation, on va éviter. Par exemple, le palmier, ce n'est pas une essence qui est bonne pour la qualité de l'air non plus. Mmh. Mais c'est une identité, un symbole de la Côte d'Azur. Si vous plantez un palmier, par exemple... Ben, vous pouvez planter un tilleul ou un érable, ça compensera ce que, à la fin, vous aurez un bilan positif.
Équilibré.
Agora Côté Sûr.
Mais alors, les municipalités, elles ne sont pas du tout compétentes. Je ne pense pas qu'aucune a la compétence pour faire tout ce travail que vous énoncez. Et j'ai vu qu'il y avait le projet Green Space qui, justement, accompagne les collectivités dans tout ce travail d'inventaire et de choix des essences.
Alors, oui, c'est un projet que je vais coordonner à partir de septembre 2023 pour 2 ans, avec une ville, donc Valencia en Espagne et Bucarest en Roumanie, qui ont ces problématiques. Et on va justement affiner nos recherches et nos résultats pour élaborer des stratégies de revégétalisation adaptées pour fournir aux municipalités ces recommandations. Donc, la solution préconisée, c'est vraiment de mélanger les essences. Donc, il est indispensable d'utiliser toute une gamme de végétaux indigènes, exotiques et différentes variétés. Pour les plans de revégétalisation, il y a la municipalité, mais comme on a dit tout à l'heure, l'apport du citoyen et des copropriétés est très, très important, qui représente à 80 à 90% du patrimoine arboré. Donc il est très très important de sensibiliser le public et notamment les scolaires avec des interventions. J'avais fait quelques interventions dans l'école à Montsartou, dans les écoles primaires. Suite au Covid, c'était beaucoup plus compliqué parce que je ne pouvais pas faire d'intervention dans les écoles du fait des règles. J'espère qu'à partir soit fin d'année scolaire cette année, soit à partir de septembre, faire à nouveau des interventions dans les écoles d'Antibes par exemple ou de Montsartou ou de Grasse, pour justement expliquer aux enfants l'importance de l'arbre en ville et l'importance du choix de l'essence pour maximiser les bienfaits de l'arbre sur la qualité de l'air. Donc, il faut donner ces lignes directrices aux particuliers, notamment sur les espèces végétales optimales à planter chez soi, pour améliorer la qualité de l'air, par exemple sous forme de brochure. Je suis en train de le faire pour Aix-en-Provence, dans le cadre du projet Airfresh. Je sais que la ville de Nice est très intéressée, la métropole est très intéressée, et on travaillera ensemble pour justement mettre en place cette brochure vulgarisée avec le choix des essences. À titre d'exemple, c'est à Aix-en-Provence, les premières estimations, en plantant 400 arbres appropriés, efficace d'un point de vue qualité de l'air, on va éliminer toutes les années 4 tonnes d'ozone, 4 tonnes de dioxyde d'azote et 200 à 300 kg de particules fines et on va stocker plus de 33 tonnes de CO2, rien qu'avec ces 400 arbres. Ce qui aura un impact sur les impacts socio-économiques, on compte à peu près 1 à 2 décès prématurés évités du fait de cette plantation et 10 hospitalisations pour cause cardiovasculaire et respiratoire en moins dans les services hospitaliers de la ville d'Aix-en-Provence. Ce qui représente à peu près un coût de 180 000 euros sauvés, d'économiser par an.
Donc on peut acheter des armes pour 180 000 euros.
Voilà.
Alors on arrive vers la fin, donc vous pouvez donner des références, donc des sites pour en savoir un petit peu plus, pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus.
Quelques recommandations je peux donner pour planter par exemple chez soi. Donc il faut vraiment sélectionner des essences. Vous pouvez planter des essences subtropicales, exotiques chez vous, mais il faut qu'elles soient adaptées aux conditions environnementales locales, aux conditions urbaines si vous plantez. Faire attention qu'il n'y ait pas de racines déformantes par exemple. Qu'elles soient adaptées à l'augmentation de la température, c'est-à-dire résistantes aux sécheresses. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, on a déjà des restrictions pour arroser. Donc, de plus en plus, on va se tourner vers des essences peu consommatrices en eau, avec des essences qui éliminent de façon optimale les polluants. Mais aussi, il faut faire très attention, on note un déclin des pollinisateurs. Sélectionner des essences mellifères, par exemple, attractives pour tout ce qui est pollinisateur et pour la biodiversité en général, et résistantes à tout ce qui est maladie. Donc, sur ce que je recommanderais, vous pouvez regarder le site du projet AirFresh. C'est lifeairfresh.eu, comme Europe. Et en fait, on va essayer de mettre en ligne toutes ces informations et recommandations pour les stratégies de plantation. Mais après, tout ce qui est, je tiens à souligner, les érables, les tilleuls, le micou collier de Provence, par exemple, mais aussi des essences plus exotiques, tels que le parasol chinois, le février d'Amérique doré, sont des très bonnes essences pour la qualité de l'air, mais aussi adaptées au changement climatique, qui n'émettent pas de pollen allergisant, qui sont attractives pour les pollinisateurs et qui atténuent le phénomène d'îlots de chaleur urbains.
On semble découvrir les îlots de chaleur urbains, alors qu'effectivement, on les a un peu créés quand même.
Oui.
Par l'urbanisme, on a un peu créé tout ça. Alors, la CASA a sorti une palette végétale. Donc, deux mots pour vous, elle est incomplète. Fais court.
C'est une brochure qui est très bien faite, qui prend en compte tout ce qui est essence adaptée, justement ce que je disais, aux conditions locales, adaptées au sol calcaire, par exemple. Il y a une subdivision sur la bande littorale, le moyen pays, l'arrière-pays, parce que vous n'allez pas planter les mêmes essences à Antibes, à Grasse et à Isola 2000. Donc voilà, il faut faire très attention d'un point de vue résistance au gel aussi. Alors la palette végétale, elle prend en compte ce volet-là, mais elle ne prend pas en compte le volet qualité de l'air. Donc ce serait bien, et j'espère pouvoir l'améliorer justement en collaboration avec l'INRAE, pour intégrer le volet qualité de l'air, c'est-à-dire parmi ces essences de la palette végétale, on va sélectionner les meilleures pour la qualité de l'air.
Ah ben là, ce sera tout public, donc ce serait comme celle-là qui est diffusée largement.
J'espère qu'elle sera rendue publique, qu'elle sera mise à disposition, et je le pense.
D'accord, eh bien je vous remercie, on a du travail pour planter maintenant.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans un mois pour un autre Alter Regard. Alors vous pourrez réentendre Pierre Sicard le 11 mai, toujours à 20h.
Merci.
Au revoir.